enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu et je proclame hardiment: mon esprit est ouvert, mon intelligence est réceptive, mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, plus jamais, plus jamais, au nom de Jésus. J'aimerais rajouter, ma vie ne sera plus jamais la même. Beaucoup d'entre nous, on aimerait changer de vie. On aimerait des choses meilleures, des choses différentes, des choses qu'on attend. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux que nous, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Vous voulez des choses meilleures et favorables au salut? La suite, c'est: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc on veut entendre de Dieu des choses qui vont nous aider à rentrer dans des choses meilleures. Nous avions commencé un questionnaire la dernière fois, des questions pour grandir. Nous avions vu que Éphésiens nous dit la chose suivante, Éphésiens 3:15, il nous a dit: en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et j'ai dit, ce qui nous fait grandir spirituel, c'est quoi, ici? Professer la vérité dans l'amour. Je prends la parole de Dieu, je la déclare, et ça me fait grandir spirituellement. Mais il y a un autre aspect que je voudrais particulièrement souligner ce matin. Professer dans la vérité dans l'amour, ça veut dire ne pas se mentir à soi-même, mais se dire la vérité nous fait grandir. Alors, pour pas se mentir à soi-même, on s'était dit, on va se poser un certain nombre de questions auxquelles nous allons nous-mêmes répondre. Chacun pourra répondre pour lui-même. Moi, je peux répondre certaines choses peut-être extérieures que je peux voir chez vous. Vous pouvez voir des choses chez moi, mais on a besoin aussi de répondre à des choses que nous seuls savons. Amen. Donc, ceux qui n'étaient pas là, on a fait l'enregistrement, mais je ne vais pas refaire toutes les premières questions. On va passer directement aux questions suivantes. Donc la dernière fois, on avait vu 8 questions, et la 9e qui était préparée, c'était: à qui dois-je pardonner aujourd'hui? Une question qu'on doit se poser tous les jours. À qui dois-je pardonner aujourd'hui? Peut-être le matin, pas encore, je ne sais pas. Mais en fin de journée, je suis sûr que je vous conseille, posez-vous tous les jours cette question: à qui dois-je pardonner aujourd'hui? Je suis persuadé qu'il y a eu plusieurs personnes qui, à la fin de cette journée, vous auront offensé d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas une prophétie, c'est statistiquement, c'est sûr. Nous ne vivons pas parfaitement, on ne vit pas des relations humaines parfaites, donc il y aura forcément eu, dans votre quotidien, des petits couacs, plus ou moins grands, hein, mais il y aura des gens qui n'auront pas été tout à fait à la hauteur de vos espérances. Peut-être même, c'est pas qu'ils voulaient vous faire du mal ou qu'ils ont été agressifs ou méchants forcément, mais simplement un décalage entre votre attente et ce qu'ils auront dit ou fait. À cause de ça, vous pouvez vous offenser, vous pouvez vous leur en vouloir d'une façon ou d'une autre, et donc ça, nous ne pouvons plus le tolérer. D'accord? C'est du poison. Donc un petit peu de poison, ajouter encore un petit peu, et puis finalement, après, on est tout intoxiqué. Donc, faites d'une façon concrète, dites: telle personne, je me rends compte, là, on s'est fâché, ou on a dit ceci, cela, Je refuse de garder quoi que ce soit contre eux. C'est une action, on ne va pas en parler pendant une heure, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, de votre quotidien. Tous les jours, regardez à qui je dois pardonner. Colossiens 3:12 nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, vous êtes des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Quand Paul écrivait à l'église de Colosse, ils n'étaient pas tous des géants spirituels. Ils n'étaient pas tous des chrétiens de 30, 40 ans qui étaient maintenant arrivés à la perfection. Il y avait de tout dans l'église de Colosse, mais il s'adresse à eux comme des élus de Dieu, saints, vous êtes mis à part et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Je garde exprès ma version, ça fait un peu bizarre, entrailles de miséricorde, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Au plus profond de vous-même, qu'il y ait là cette miséricorde, non seulement miséricorde, mais bonté, humilité, douceur et patience. Voilà tout ce qu'il y a en vous. Vous le saviez? Vous le saviez peut-être parce que c'est écrit, mais est-ce que vous en êtes conscient? Mais c'est la réalité. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, vous voyez, il était conscient aussi qu'il pouvait y avoir des problèmes, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est toujours la base. On est capable de pardonner parce que Christ nous a pardonné. Si vous avez le bonheur, la grâce que Dieu vous a faite d'avoir un bon mariage, une bonne relation avec votre conjoint, même si vous êtes un couple qui vous disputez presque jamais ou jamais, le quotidien est fait de milliers de fois où on dit « je te demande pardon ». Des milliers de fois. C'est ça qui entretient une bonne relation. Parce qu'on en a besoin. On passe à une autre question. Quel est mon verset favori pour moi-même? Posez-vous la question. Quel est mon verset favori? Si je viens à vous, je dis, quel est ton verset favori? Qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce que vous en avez un déjà? Le verset favori n'est peut-être pas le même aujourd'hui que la semaine dernière ou qu'il y a 10 ans, parce que la parole de Dieu est vivante. Mais le verset favori, c'est ce qui brûle dans votre cœur, ce que vous désirez vraiment au fond de vous-même, ce que Dieu vous a promis, ce que vous êtes en train de croire. Vous voyez ce que je veux dire? Quel est ton verset favori pour toi-même? Si tu n'en as pas, ça veut dire que tu n'as pas entendu de Dieu. Si tu n'as pas entendu de Dieu, c'est peut-être que tu n'as même pas eu cette attente de dire « Seigneur, parle-moi, donne-moi une promesse, donne-moi une direction. » Vous voyez? Mais dans une relation normale avec Dieu, je sais que je passe le standard assez haut, Dieu vous parle, il communique et il vous dit des choses. Et ces choses que vous entendez, c'est ça. Ça ne veut pas dire forcément que c'est un verset que je cite à la virgule près. Mais c'est une parole, c'est quelque chose que vous attendez. Quel est mon verset favori pour moi? Et je rajoute aujourd'hui, parce que c'est dans le maintenant qu'on veut vivre. Qu'est-ce que j'attends pour aujourd'hui? Pour moi, pour ma famille. Vous avez aussi une promesse pour votre famille? Qui connaît une promesse pour la famille? Voilà, acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ça, c'est un bon verset pour la famille. Mais vous ne pouvez pas, maintenant, tout le monde va dire, ça c'est mon verset pour la famille. C'est un verset pour la famille. C'est une parole de Dieu qui peut être valable pour tout le monde. Mais ça ne sera peut-être pas forcément le mien pour aujourd'hui. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Et de la même façon, vous pouvez, je vais prendre un exemple, je dirais classique. Si pour vous-même, on est en début d'année, on souhaite des bons vœux, on prend 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Admettons, je me place dans cette position. Je me vois comme quelqu'un de bien-aimé. On l'a lu tout à l'heure dans Colossiens. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Vous êtes content d'être bien-aimé de Dieu? Pas juste aimé, vous êtes même bien-aimé. C'est quelque chose, une petite touche supplémentaire. Vous êtes bien-aimé de Dieu. Et Dieu vous dit personnellement, il vous dit, mon bien-aimé, je souhaite, Dieu souhaite, je désire que tu ailles bien, que tout aille bien pour toi. La santé, prospérité, ça veut dire à tous égards, que tout aille bien pour toi. Alors ça fait du bien. La famille, notre carrière, chacun a sa carrière. Hein. Une maman est aussi en train d'avoir une carrière, pas seulement une femme qui a une activité professionnelle. C'est aussi une carrière. Je me rappelle toujours cette illustration. Peut-être beaucoup ne l'ont pas entendu, je vais le rappeler. C'était, ça s'est passé il n'y a pas trop longtemps, une dame qui était, avait toujours vécu en ville, très éduquée, très cultivée, et donc elle s'est mariée, ils ont eu 4 fils, et ils ont été amenés à déménager dans un petit village. Et pour elle, c'était vraiment incroyable. « Seigneur, mais qu'est-ce que je vais devenir dans cet endroit ?» Et le Seigneur lui a parlé, lui a dit, « Je veux que tu élèves des champions pour moi. » Et donc, de ses 4 fils, elle l'a vu comme un ministère de Dieu. Alors, elle a travaillé, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que c'est... Et puis, on peut dire qu'au niveau autant spirituel que social, tous ses 4 fils ont vraiment une position. Il y en a un qui est missionnaire et un autre qui est un enseignant itinérant. Le troisième est un médecin. Et je veux dire, elle a vraiment... donner tout ce qu'elle pouvait. Donc pour nous aussi, on peut avoir une promesse de Dieu pour une carrière. On peut aussi progresser dans notre vie professionnelle. Ça ne veut pas dire que de ouvrier on passe forcément à contremaître, de contremaître on passe à je ne sais pas, patron. C'est pas seulement ce genre de carrière. Vous savez, si vous êtes un excellent ouvrier, premièrement, même si votre salaire est limité, Dieu n'est pas limité à votre salaire. Vous le saviez ça? Il n'a pas perdu la recette de la manne. Il peut encore pourvoir à vos besoins. Mais des fois, il vaut mieux être un excellent ouvrier ou artisan que de passer à quelque chose d'autre, mais qu'on n'est pas appelé à faire ou n'est pas à l'aise dans ce qu'on fait. Donc, vous pouvez très bien faire carrière, par exemple, en ayant... la faveur de tous ceux qui sont autour de vous. Quand on voit la qualité de votre travail, quand on voit votre attitude par rapport aux collègues. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mais pour ça, je pose encore une fois la question, quel est votre verset favori? Vous devez avoir une parole de Dieu pour chaque chose que vous vivez. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est pas quelque chose d'accessoire. C'est le principal. Vous pouvez en vivre. Si vous n'avez plus rien du tout au monde, avec la parole, vous pouvez tout reconstruire. Mais si vous avez beaucoup de choses du monde et pas la parole, vous pouvez tout perdre. C'est ça la différence. Quand vous mettez quelqu'un qui est riche de la parole dans un environnement même difficile, négatif, eh bien, il peut faire prospérer sa situation. Il nous est dit dans le psaume 84... Quand certaines personnes qui marchent avec Dieu, ils vont dans la vallée des pleurs, dans la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Là où c'est la vallée du désespoir, eux viennent avec la présence de Dieu dans leur vie et ils transforment l'environnement. Vous prenez une personne qui est pauvre spirituellement, vous la placez dans un environnement riche, au bout d'un moment, il va tout détruire. C'est l'illustration de l'homme sur la planète Terre. Dieu a fait une planète extrêmement riche avec plein de ressources, des ressources, des ressources. Tout le monde pourrait vivre en étant millionnaire, littéralement. Mais comme les hommes ne font que de s'entretuer et de détruire tout ce que Dieu a fait, poussé par le mal, bien sûr, eh bien, cet environnement riche est en train d'être complètement détruit. La faute n'est pas à Dieu. Hein. Il avait doté au départ de tout ce qu'il fallait. Il avait donné des directions. Il avait dit, touche pas à cet arbre. De celui-là, tu peux en manger, mais pas de celui-là. Donc, nous pouvons vivre de la parole. Le verset adapté pour ça, c'est Colossiens 3:16. Si vous êtes encore dans Colossiens, regardez un peu plus loin, il est dit, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Comprenez, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, qu'elle habite parmi vous abondamment? Ça ne veut pas dire que dans votre église qui est plein de Bibles partout. D'accord? C'est pas ça. C'est qu'elle habite parmi vous abondamment. C'est pas non plus qu'il y ait plein de Bibles dans votre maison. C'est évident. Donc, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voyez, il est dit que nous devons nous instruire, nous exhorter par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Il n'est pas dit « instruisez-vous » et après, autre chose, chantez. Ça veut dire que le temps de louange dans l'église, vous devez le concevoir, non pas « maintenant on a le moment du chant », ce n'est pas le moment du chant. C'est le moment où je suis en train d'exhorter mes frères et sœurs dans la foi par ce que je chante. Et en même temps de m'exhorter moi-même, les uns les autres, mais aussi soi-même, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. S'ouvrir à l'action du Saint-Esprit nous fait habiter la parole de Dieu en nous abondamment. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Constamment remercier Dieu, voir les bonnes choses de Dieu. On a beaucoup trop tendance, et moi je ne dis pas parce que pour moi tout va facilement, mais pour vous, c'est vrai, vous avez des difficultés. On a beaucoup trop tendance à voir les choses qu'on n'a pas et celles qui vont de travers. C'est de la tendance naturelle, humaine. Mais on a besoin de dépasser ce stade. Nous ne sommes pas appelés à être simplement humains. On est quoi? On a lu tout à l'heure. Élus de Dieu, saints et bien-aimés, assis dans les lieux célestes avec Christ, on dit des fois. Nous sommes des êtres surnaturels, depuis que Dieu nous a engendrés. Surnaturels. Certains vont plus loin et disent, mais nous sommes des extraterrestres. Autre question. Mais ça va dans le même sens un peu. Quelle est la chose impossible pour laquelle j'exerce ma foi et que j'attends activement? Donc c'est à chacun de voir encore. C'est pas moi qui vous dis ce que vous devez croire. Moi je vous exhorte simplement à dire la chose suivante. Je suis un croyant. Croyant, ça veut dire je crois à quelque chose. Il y a des choses dans la vie qui sont impossibles. C'est visible que certaines choses, je ne peux pas les faire. Mais c'est là que c'est le domaine de Dieu. C'est là le domaine d'excellence de Dieu où il veut montrer sa puissance, où il veut montrer sa gloire. Si nous pouvons tout faire, même vivre une vie sainte, on n'a plus besoin de Dieu. Si on est d'abord... Certains ont poussé tellement loin... que l'annonce de l'évangile, c'était vous allez recevoir le salut si vous vivez une vie sans péché. Ah, je vous assure, ça existe. Hein? Il faut que vous meniez une vie tellement sainte qu'alors là, vous vous montrez digne de recevoir le salut. Mais je dis des fois, nous ne sommes pas loin dans nos raisonnements. On veut se débrouiller sans Dieu. Non, ne le faisons pas. Tout ce que Dieu désire le plus intensément possible, c'est d'intervenir. On peut dire qu'il a comme les mains liées par notre incrédulité. Incrédulité, ça veut dire notre manque de le mettre au défi. Alors je dis encore une fois, il y a une chose impossible. Peut-être plusieurs choses impossibles qui sont dans votre vie. Mais maintenant, la question c'est, qu'est-ce que j'en fais de cette chose impossible ? Est-ce que je les cataloguer impossible? Je dis c'est impossible, ça restera impossible. Ou est-ce que je relève le défi? Je dis c'est une chose impossible, mais il y a une promesse de Dieu pour ça. Il va se manifester. Il va faire quelque chose dans ce domaine. J'ai été dernièrement encore, je me suis interrogé, voyant le reportage de nos amis Yves et Michel sur ce couple de non-voyants. Donc, je me suis dit, on a entendu, je crois, le nombre de personnes qui sont non-voyants en France. Et c'est pas juste quelques dizaines, quelques centaines. Hein. C'est des dizaines de milliers de personnes dans notre pays qui, tous les jours, vivent sans voir. Or, il nous est dit que Jésus est venu, il avait l'onction pour délivrer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, ouvrir les yeux des aveugles. Et on ne peut pas toujours se réfugier dans un raisonnement en disant, oui, bon, c'est les aveugles spirituels. Non, Jésus a souvent dit, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, cette chose impossible que des aveugles voient, que des sourds entendent, que des paralytiques puissent marcher, c'est quelque chose qui doit être comme un défi qui est lancé à l'Église. Donc, croyons pour des choses impossibles. Si vous avez quelque part dans votre entourage, je vous donne une idée, si vous avez quelque part dans votre entourage ou voisinage, quelqu'un qui a un handicap, quelqu'un qui, où il y a une situation difficile, voire impossible, relevez le défi. Vous ne pouvez pas le porter charnellement, d'accord? Vous ne pouvez pas dire, maintenant je m'occupe de... Seigneur, je crois que tu vas guérir tous les aveugles de notre pays. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, on est dans le vague. Mais de dire, je crois pour une chose impossible. Je l'attends activement. Croire pour des choses précises. Le verset, c'est Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ça, c'est la première étape. Garder l'espérance. Au bout d'un moment, on n'espère même plus. L'espérance, c'est la première étape. Des fois, on n'espère même plus. Verset 12, la suite. « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ça, c'est la deuxième étape. On peut dire, première étape, espérance. Deuxième étape, la foi. Troisième étape, rentrer réellement dans l'héritage de la promesse et voir la réalisation. Mais si on ne fait pas les deux premières étapes, comment voulez-vous qu'on n'arrive jamais dans la troisième? C'est impossible. Ça, c'est impossible. Mais la chose qui est impossible aux hommes devient possible devant Dieu. Une autre question. Quelle est la pensée dominante dans ma vie? Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Quelle est la chose que je désire le plus? À quoi est-ce que vous pensez le matin en vous levant? Je ne parle pas du style « bon, maintenant il me faut un café hein. ». À quoi je pense le soir en me couchant? Je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. La pensée dominante, c'est ce qui va pousser toute votre vie. Quand vous voyez à la fin de certains personnages, peut-être célèbres ou qui ont été fameux pour avoir accompli des choses, quand vous voyez comment ils ont vécu, la plupart du temps, en fait, ils se donnaient tout entier à quelque chose. Tout entier. Si la pensée dominante de votre vie, c'est par exemple servir Dieu, alors vous allez voir des effets. Si c'est juste quelque chose que vous faites occasionnellement ou pour vous donner bonne conscience ou parce que le pasteur a dit qu'il y a des besoins ou qu'il faut servir, ce n'est pas la pensée dominante. En fait, on se rend compte que dans le monde, l'apôtre Paul disait à un moment des gens qu'il voyait, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Et il les exhortait en disant, attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Donc il est normal pour les êtres humains d'être attachés aux choses de la terre. C'est normal. Par contre, si le chrétien est attaché aux choses de la terre, ça veut dire que son intelligence n'est pas renouvelée, qu'il ne vit pas vraiment sa position de fils et de fille du royaume. Sa pensée dominante, elle est alors simplement charnelle. Vous pouvez donc facilement faire le test. Regardez ce qui occupe votre temps, votre énergie, comment s'orienter tout votre temps libre, loisir, et puis vous verrez quelle est la pensée dominante de votre vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Pour beaucoup de gens, le plus important, c'est ramasser le maximum d'argent. Ça, c'est le plus important, c'est la pensée dominante. D'accord? Mais pour nous, la pensée dominante, à terme, nous devrions arriver à la même chose que Moïse a expérimenté quand il a dit dans Exode 33:18, « Fais-moi voir ta gloire. » Et vous comprenez, de vous faire passer de occuper aux choses de la terre à « Fais-moi voir ta gloire », si je vous le dis comme ça, la pensée dominante de votre vie devrait être « Fais-moi voir ta gloire ». Ça ne rime à rien, puisqu'on est transformé de gloire en gloire. Moïse, quand il a dit ça, il avait vécu énormément de choses, des miracles. Il avait vu des choses. Mais il était arrivé à un moment où, et on peut dire qu'il était obsédé par une seule pensée, « Fais-moi voir ta gloire ». Plus rien d'autre que la gloire de Dieu ne pouvait le satisfaire. Je ne pense pas que nous en soyons à ce point pour le moment. Peut-être que je me trompe et quelqu'un plus loin que moi. Moi, je crois que si déjà nous sommes dans la dimension de gloire en gloire, c'est déjà bien. C'est-à-dire, nous avons déjà vécu certaines choses avec Dieu. Nous attendons à en voir d'autres. On en veut un peu plus tous les jours. C'est un processus naturel. Mais à terme, on devrait arriver à ce que la pensée dominante, ça soit tellement voir ta gloire qu'on arrive à ce point de l'histoire où effectivement Jésus se montre et la gloire de Dieu est manifestée et il y aura un moment où l'Église sera en un clin d'œil, il nous est dit, partie. On sera tous consumés par ce désir. Et vous savez, quand on voit, on va prendre l'exemple maintenant du raz-de-marée, quand on voit que la vie de millions de personnes peut être bouleversée en un instant, toutes nos assurances, toutes nos certitudes, tout notre mode de vie peut être complètement transformé en un instant. Et qu'est-ce qu'il reste alors? Alors on peut mieux comprendre le désir de certains d'avoir cette prière intense. Viens Seigneur Jésus. La plupart du temps, les chrétiens qui vivent dans un certain confort, même confort spirituel, leur désir le plus intense, c'est pas « Viens Seigneur Jésus » ou « Fais-moi voir ta gloire ». C'est « Je vais d'abord faire ceci, je vais d'abord faire cela ». Et puis, on veut bien Jésus dans notre vie, mais en plus de beaucoup d'autres choses. Donc, pensez-y. C'est pas pour vous condamner que je vous dis ça, mais pour vous encourager à dire que la pensée dominante de ma vie soit toujours plus en accord avec ce que Dieu désire. Et Dieu a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, c'est déjà une étape. On se remplit de la parole, notre foi augmente, on commence à voir la gloire de Dieu ici et là, sans parler maintenant de la gloire de Dieu, vision céleste, ouverte, Dieu face à face. Hein. Mais on rentre dans cette... Moi, à la fois, je le crois et je n'en suis pas tout à fait satisfait. Je ne suis pas tout à fait satisfait de vous prêcher le peu à peu. J'aimerais vous prêcher le soudainement et le maintenant et le radical. Mais je ne crois pas que nous puissions y arriver comme ça instantanément. Je crois que pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose de progressif. Et la parole de Dieu semble confirmer ça quand elle dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Néanmoins, donc, ayez une pensée dominante toujours plus dirigée vers les choses d'en haut. On est d'accord sur ça ? Oui, personne n'est contre. Personne s'abstient. Une question très pratique aussi. Quelle est une bonne chose pour laquelle je m'étais engagé et que j'ai cessé de faire? Quand vous aurez trouvé la réponse, demandez-vous pourquoi vous étiez engagé à faire ça et est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas y revenir et le refaire. On va prendre l'exemple classique. Lire la Bible quotidiennement. Vous savez qu'il y a même des chrétiens qui ont besoin qu'on leur rappelle ça. Des fois, pris par le quotidien, on n'a plus le temps, prend plus le temps. Donc quelqu'un peut-être s'était engagé, peut-être c'était une bonne résolution du nouvel an. Cette année, je vais lire ma Bible comme jamais jusqu'à présent. Peut-même, il y a des plans qui aident, lecture de la Bible une fois par an. Moi, je dis, tout chrétien devrait lire la Bible une fois par an. Si vous calculez, même une simple lecture, sans grande étude et méditation, une lecture normale, je ne parle pas d'un cas exceptionnel peut-être, mais une lecture normale devrait prendre entre 15 et 20 minutes. avec une moyenne d'environ 3 chapitres par jour, qui n'est pas énorme. Avec ça, vous avez fait le tour de la Bible, il me semble, hein, mais vous pourrez calculer de façon plus précise avec une calculatrice, mais ça fait à peu près ça. Vous avez 366 chapitres, non, dans le Nouveau Testament, c'est combien? 260, donc, et puis vous avez 900 environ dans l'Ancien, donc on y arrive. Hein. Donc ça peut être ça. Donc est-ce que vous rappelez, peut-être dans une réunion, vous êtes engagé à faire quelque chose. Peut-être vous êtes engagé à faire des choses dans votre vie quotidienne pour améliorer le quotidien. Peut-être améliorer la vie de famille. Peut-être vous êtes engagé à sortir les poubelles régulièrement. Il y en a qui sourient quand je dis ça. Je connais le cas d'une famille il y a quelques années. Ça avait empoisonné la vie de couple. Les poubelles. Mais je vous assure. Le diable peut se servir de n'importe quoi, même des poubelles. Ça voilà, la poubelle. Alors, entre celui qui doit la sortir et qui ne le fait pas, ou la poubelle qui n'est pas au bon endroit, c'est des choses comme ça. Donc, si vous êtes engagé à sortir les poubelles, eh bien, si vous ne le faites plus, posez-vous la question. Peut-être je devrais me réengager à tenir ça. Si ça peut vouloir la peine pour avoir une meilleure vie ensemble. Nettoyer, ranger sa chambre, ne pas laisser traîner les affaires. C'est pas seulement pour les enfants, hein. Il y a aussi des hommes, paraît-il, qui laissent traîner les affaires. Des choses. Il n'y a pas des choses plus spirituelles ou moins spirituelles. Ça dépend de l'esprit dans lequel vous le faites. Si vous faites pour rendre service. Donc, il y a lire sa Bible quotidiennement. Ou prier le matin. Des bonnes choses, ça peut être des bonnes choses par rapport à votre propre vie aussi. Moi, je sais que moi, j'ai un problème par rapport à ça. Faire un vrai petit déjeuner le matin. Beaucoup de gens partent dans la journée en n'ayant rien dans l'estomac. Et après, il y a des moments de creux où on n'est pas forcément capable de répondre par rapport à des exigences de travail ou d'études, etc. Le fameux creux de 11 heures. Mais donc, c'est des petites choses. Faire de l'exercice. Une bonne chose pour laquelle on a pu s'engager, c'est ne pas faire de dette. Quand quelqu'un a connu un moment des difficultés financières, vous savez, actuellement, c'est tellement facile de s'endetter. Vous pouvez faire des crédits par-ci, crédits par-là. J'ai entendu la radio, j'en revenais pas. Une situation de surendettement, les gens avaient 40 crédits. 40 crédits. Moi, je ne peux même pas imaginer ça. Alors, vous avez un crédit pour rembourser un autre crédit, pour rembourser un autre crédit, à quel s'ajoute encore un crédit. C'est évident que plus rien n'est possible. Bon. Je ne peux pas vous prouver, mais j'ai entendu ça de mes oreilles, quelqu'un qui avait 40 crédits. Donc, il se peut qu'une personne ait connu une situation financière difficile, s'en sorte et se dit « bon, ben, je ne vais plus me replonger ». Mais la prochaine sollicitation par des publicités et on veut le dernier appareil écran plat ou je ne sais quoi, plasma, et ça, encore, statistique récente sur l'économie française, il y a donc statistiquement eu moins de dépenses dans les foyers français en décembre, je crois, pour la nourriture que pour tous ces appareillages électroniques. Donc, il a dit, on remplace la nourriture par des écrans plats. Ça fait quelque chose de drôle, mais les gens sont capables donc de se priver dans un domaine pour le consacrer à un autre domaine. Mais ce principe, nous devons l'appliquer à notre vie spirituelle. On doit se réduire pour certaines choses pour pouvoir se donner plus à Dieu. On doit pouvoir aussi accepter de renoncer à une consommation immédiate pour ne pas se faire de nouveau piéger. La Bible nous parle tout le temps de ça, dans les proverbes, de ne pas se laisser enlacer par les engagements inconsidérés, ne pas se plonger dans les dettes. Ça, c'est des bonnes choses qu'on peut s'être engagé à faire. Ok, je ne vais plus maintenant me faire piéger par la pub et le voisin qui a la nouvelle voiture. Ma voiture fonctionne très bien, mais maintenant, tout à coup, il m'en faut une nouvelle. Vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être dans d'autres domaines aussi. Par exemple, une bonne chose que je m'étais engagé, nous savons que la prière dans l'esprit, c'est quelque chose qui nous fortifie. Il nous est dit que celui qui parle en d'autres langues s'édifie lui-même, qu'il rend d'excellentes actions de grâce, etc. Donc, peut-être, je me suis dit, je vais prendre du temps tous les jours, passer un temps de prière dans l'esprit. Et au bout d'un moment, on se laisse prendre par les habitudes et on ne le fait plus. Donc, ça peut être quelque chose qui est valable. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses dans la vie aussi de l'Église. Soutenir financièrement l'œuvre de Dieu. Alors, on le fait pendant un temps. Et puis, après, il y a des factures. Et après, il y a ceci et cela. Et puis, on ne participe plus. Le verset clé pour ça, c'est Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Et il nous a dit, ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, il y a une chose. Si vous y engagez, vous dites, oui, Seigneur, c'est ce que je veux faire. Donc, que votre oui soit oui. Point final. Et pas, oui, si je peux, si ça va, si c'est pas trop gênant, si c'est possible et tout le reste. Non. Il nous a dit, ce qu'on y ajoute vient du malin parce qu'il cherche par là à avoir de nouveau un accès dans votre vie pour pouvoir vous faire tomber. On a lu tout à l'heure que ceux qui vraiment héritent des promesses, c'est ceux qui ne se relâchent pas et qui imitent par la foi et la persévérance, ceux qui ont réussi. Ça, c'est quelque chose qui, des fois, c'est un peu lourd, hein. Foi, persévérance, foi, encore. Moi, j'aimerais du tout de suite, immédiat et du concret. Il y en a pour qui ça a marché. Il y a assez de livres. Il y en a des centaines, des milliers de témoignages de gens que ça fait plus de 2000 ans, même ceux qui étaient avant Jésus aussi, qui ont vécu des promesses de Dieu, qui ont vécu des miracles. Donc, ça marche pour quelques-uns. Pourquoi pas pour nous? Eh bien, faisons la même chose qu'ils ont fait. Une question, peut-être, par rapport à ce que d'autres peuvent faire dans ma vie, produire en moi. Parmi les personnes que je respecte le plus, qu'est-ce qui mérite le respect chez eux? Observez un peu les personnes que vous estimez. Regardez quelles sont leurs qualités. Quelles sont les choses que vous admirez chez eux? En quoi ça va nous aider? Ça va nous montrer notre système de valeurs. D'accord? Et dites, moi je respecte le président de la République à cause de sa position. C'est un homme qui prend des décisions, etc. Ça montre votre système de valeurs. Vous avez un système de valeurs qui est fondé sur des positions, l'autorité, mais c'est basé humainement. Si, par exemple, vous respectez quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent, ça montre votre système de valeurs. Si vous respectez quelqu'un parce que vous dites, ça vraiment, c'est une femme de foi, de prière, etc., ça montre votre système de valeurs. Si vous respectez quelqu'un parce que vous dites, ça, c'est un homme de Dieu, il a toujours été honnête, intègre, dans son ministère, il n'y a jamais eu de scandale, etc. Toutes ces choses vous aident à voir en vous-même qu'est-ce qui est important. Et en même temps, vous pouvez vous dire ce que vous respectez, que vous admirez chez les autres, au fond de vous-même, c'est quelque chose que vous désirez pour vous. Ça vous montre où vous en êtes. Vous voyez? Quelqu'un qui sans cesse regarde des gens riches et célèbres, etc. Combien rêvent de devenir star du sport ou du cinéma ou d'autres choses? C'est leur système de valeurs. Moi, j'en ai trouvé un que j'aime bien. Il est très discret dans Néhémie 7, 2. Il est dit, « J'ai donné mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem. C'est un homme supérieur au grand nombre, par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. » Je dis, ça c'est un surnom ou une façon de voir quelqu'un qui me plaît. Un homme qui montre une supériorité par sa fidélité, sa crainte de Dieu. Ça vous inspire ça? Moi, ça m'inspire en tout cas. Des fois, on vit des moments difficiles aussi, dans des situations où on ne voit pas d'issue. On peut se poser la question, que ferait une personne vraiment créative dans ma situation? Nous, on a une façon de penser qui ne nous permet peut-être pas, des fois, de nous sortir de certaines situations. Alors, mon encouragement pour vous, c'est apprenons à élargir nos pensées. Mettons à la place quelqu'un qui est totalement différent de nous. Dites, qu'est-ce que lui ferait à ma place, ou elle? Quelqu'un qu'on admire ou quelqu'un qui est différent, qui ne pense pas comme nous. Dieu, par exemple. Qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Éphésiens 3:20, Dieu qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est une bonne façon de le placer dans notre situation. Parce que Jésus a pris notre humanité pour nous sortir de notre misère. Il s'est placé à ma place. Une bonne déclaration, on l'a déjà dit des fois, mon esprit attire les idées de Dieu. Des fois, moi, je ne trouve pas de solution, mais Dieu en a. Toujours par rapport à nos relations les uns avec les autres, quelles influences extérieures me poussent à devenir meilleur ou pire? Si je suis conscient que certaines personnes ont une mauvaise influence sur moi, pourquoi continuer à les fréquenter? On le voit par exemple parmi les jeunes, il y a le phénomène des fois de bande, d'accord? On veut faire partie de la bande. Tout le monde peut s'encourager au mal en disant oh, tu peux essayer la drogue, tout le monde le fait, c'est pas grave, tu fumes un petit truc. Donc, on peut être conscient que certains ont une mauvaise influence sur nous et pourtant continuer de les fréquenter. Ce n'est pas raisonnable. Et la finalité, forcément, on court à sa perte. Pour les grandes personnes aussi. Si vous fréquentez que des païens, bien sûr, on veut gagner des personnes qui ne croient pas, on veut les gagner à Christ. Mais si c'est vos amis intimes qui ne croient pas en Dieu, vous allez être influencé par eux. Si parmi les chrétiens que vous fréquentez, ce sont toujours des personnes négatives qu'il faut que critiquer, vous allez être influencé par eux. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas, 1 Corinthiens 15:33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il nous a dit quoi faire au contraire. Il a dit, fuis les passions de la jeunesse, 2 Timothée 2:22, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc la Bible nous dit, non pas couper radicalement les liens avec les gens. Au contraire, il faut être une source d'influence. Mais il nous a dit, choisissez votre compagnie, vos amis. Choisissez-les bien. D'accord? Parce que il y aura une influence. On peut dire influence extérieure qui vous pousse à devenir meilleur ou pire. C'est aussi les choses auxquelles vous exposez. Les lectures, les films, etc. Le faux raisonnement, c'est de se croire plus fort. De dire, ouais, je sais que c'est pas très bien de le regarder, mais je regarde quand même, ça n'aura pas d'influence sur moi. Je sais que c'est pas très bien de lire ceci, cela, mais je le fais quand même. Je suis assez fort pour discerner. Je sais que être tout le temps avec telle personne, c'est vrai que c'est une personne qui est peut-être négative. Mais, voilà, il nous est dit, ne vous y trompez pas. Dans le même ordre d'idée, suis-je capable de conduire quelqu'un à Christ? Posez-vous cette question. Moi, je dis oui. En Jésus, nous sommes capables. Bien sûr, on peut se former, on peut apprendre peut-être comment exposer le plan du salut à quelqu'un, compter sur l'aide de Dieu du Saint-Esprit, mais nous sommes capables. Vous pouvez le faire. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, peut conduire quelqu'un d'autre à Christ. C'est possible. Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le 18, on arrive à la fin, quasiment. Dans quel domaine dois-je faire des progrès en termes de développement personnel? Moi, je crois que nous sommes là pour nous lancer des défis, pas juste pour vivoter ou pour rester dans la médiocrité. Mais Dieu veut qu'on rentre dans l'excellence. Alors, développement personnel, c'est peut-être un mot à la mode dans certains milieux ou dans certains milieux professionnels, Mais votre pensez à votre image de vous-même, l'image que vous renvoie le miroir, est-ce que vous en êtes content? Il y a peut-être des choses à faire au niveau physique, au niveau hygiène, au niveau de l'allure que vous avez. Ça peut être les cheveux ou le fait d'être rasé ou pas rasé. Des fois, il y a des mannequins de mode, ils ont une espèce de barbe qu'on appelle barbe pirate. Ça fait comme on est dans le coup. Alors, c'est pas la question. On n'a pas besoin d'être tous rasés forcément. Mais il y a une différence entre être mal rasé ou être exprès, avoir une barbe plus ou moins longue. Et donc, tout ça, c'est des choses qui font partie de notre image de soi. Le monde attache une grande importance aux choses extérieures. Mais ne vous y trompez pas. L'extérieur traduit aussi beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Quelqu'un qui est négligé à l'extérieur, on parle de négligé, c'est aussi parce qu'à l'intérieur, souvent, il y a des choses qui ne vont pas. Je ne condamne pas. Je dis, il y a des choses qui ne vont pas. Dans le sens que quelqu'un qui est négligé, ça peut vouloir dire, je m'en fiche de ce que les autres pensent. Ça peut avoir un bon côté, dans le sens que je ne suis pas constamment préoccupé par le regard des autres, mais ça a aussi peut-être un côté négatif, c'est-à-dire que je n'ai pas encore compris que je dois être une personne d'influence. Dieu doit pouvoir passer au travers de moi pour communiquer quelque chose. Qu'est-ce que je veux communiquer? Donc, les choses extérieures sont souvent en rapport avec l'état de notre cœur, être bien dans sa peau, se sentir aimé, tout ça. Ça peut aussi être dans d'autres domaines, hein, avoir une hygiène au niveau des dents ou les odeurs ou la façon dont on s'habille. Le verset de Proverbe 23:7 nous dit « L'homme, il est comme les pensées de son âme. » Donc, les pensées de notre âme se montrent aussi à l'extérieur. Je parle pas, on va pas rentrer dans tous les détails. Hein. Il y a des gens qui montrent aussi une façade hypocrite. Hein. Dehors, tout paraît beau, mais à l'intérieur, c'est pourri. Et Jésus en a parlé beaucoup aussi de ça. Notre question, quels sont mes dons, talents ou points forts? Je ne parle pas des points faibles, mais des points forts. Quelqu'un a dit une fois, il n'est pas tellement nécessaire de travailler tous nos points faibles. Je m'explique par là. Un exemple. Peut-être quelqu'un ne sait pas chanter. On peut prendre des cours de chant, on peut travailler sa voix, mais on ne deviendra peut-être jamais un chanteur extraordinaire à cause de ça. D'accord? On va peut-être augmenter un peu, mais il y aura d'autres domaines dans lesquels je peux exceller à ce moment-là. Regardons quels sont nos points forts et travaillons les points forts. Nous avons plus intérêt à mettre au service de Dieu nos dons et talents où on est fort que ceux qu'on n'a pas et qu'on veut simplement faire par imitation. Comprenez ce que je veux dire? Et c'est beaucoup plus agréable pour nous parce que c'est là qu'on est à l'aise. C'est notre point fort, justement. Donc, mettons les dons et talents au service de Dieu et des autres. Et si vous avez des problèmes avec votre image, etc., ou des choses que vous n'avez pas, rappelez-vous du psaume 139:14. Il disait, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu n'a pas fait de vous un raté. Il a créé quelque chose de merveilleux en vous qu'il va utiliser à sa gloire. Croyez-le. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ça, c'est notre travail. Le travail de Dieu, c'était tes œuvres sont admirables. Notre travail, c'est mon âme le reconnaît bien. Il faut que nous le reconnaissions. Et je termine par la dernière question. Quelle est la chose que je puisse faire pour quelqu'un qui n'aura jamais l'occasion de me rendre? Si vous voulez vraiment manifester l'amour dans ce monde, cherchez à faire quelque chose pour quelqu'un qu'il ne pourra jamais vous rendre. Jésus il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si quelqu'un donne sa vie, on ne peut pas lui rendre naturellement, d'accord? Mais c'est faire un acte gratuit, c'est l'expression de l'amour qui n'attend rien en retour. Le faire pour quelqu'un qui ne peut le rendre, c'est la démonstration de notre motivation désintéressée. Vous voyez, il y a quelque chose de très simple qu'on peut faire pour quelqu'un qu'il ne peut pas nous rendre. Vous pouvez prier pour lui. Vous vous rendez compte à quel point c'est un acte d'amour de prier? Parce que vous donnez quelques minutes de votre vie qu'il ne pourra plus jamais vous rendre. D'accord? C'est du temps de votre vie, c'est votre temps. Vous donnez de la prière et c'est un acte gratuit. Il n'y a rien en retour. Si ce n'est la joie de voir après des bénéfices dans la vie de quelqu'un. Mais c'est un acte gratuit. Et n'oublions pas l'aspect pratique aussi. On a fini les fêtes, on s'invite les uns les autres dans la famille, mais ce n'est pas dans l'esprit de ce que Jésus a dit. Parce que Jésus a dit dans Luc 14, 13, lorsque tu donnes un festin, il n'est pas dit invite tes parents et après ils t'inviteront de nouveau en retour. Il lui dit invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. On se rend compte que beaucoup de gens ont du mal à recevoir des cadeaux, hein. Ils veulent ne rien devoir à personne. Dès que vous faites quelque chose pour eux, ils veulent tout de suite le payer. Mais pour nous, c'est pareil. Nous devons apprendre à recevoir de Dieu. On ne peut pas lui payer en retour. Et quand on vit comme lui, alors on veut aussi faire des actes gratuits, des actes d'amour. Amen. Voilà, je crois que ces questions vont nous amener plus loin. Prions ensemble, on va se lever. Seigneur, merci, ta parole nous le dit. En professant la vérité dans l'amour, nous allons grandir ensemble. Et Seigneur, merci pour tous les aspects pratiques de notre vie, où tu veux intervenir, où tu veux manifester ton abondance. Abondance de paix et de joie par le Saint-Esprit. Seigneur, montre à chacun maintenant comment tu veux et peux agir. Merci Seigneur, parce que tu montres à chacun aussi que tu es le Dieu de l'impossible. Nous attendons plus pour la vie de chacun, des choses meilleures et favorables au salut. Seigneur, nous disons, nous sommes là aussi pour nous encourager à ne pas nous relâcher, mais à continuer d'exercer notre foi pour hériter des promesses. Amen.